Chapitre 3. Vous voyez comme nous ne devions plus entendre parler de lui, dit Marichette en revenant de conduire l'instituteur. Justement, il suffit qu'on lui ait demandé quelque chose pour qu'il fasse le mort. Je serais si malheureuse qu'il pût croire que cette démarche a été faite en mon nom. S'il est coquin, il n'est pas bête. Il aura vu tout de suite que ce brave monsieur Ledru est un naïf qui ne demande qu'à obliger. Je suis peut-être folle, mais dès là qu'il est question de lui, j'ai tout de suite peur, peur pour Pierre, peur pour moi. Quelle peur ? Je ne sais pas, toutes les peurs. Il n'est plus votre tuteur, il a fait constater par jugement qu'il n'est pour rien dans la naissance de Pierre. Que voulez-vous qu'il puisse maintenant contre l'enfant et contre vous ? Puis, comme c'était là un sujet qu'elle tâchait toujours d'éviter, elle parla d'autre chose. « Où est Drogue ? » demanda-t-elle. « J'ai entendu la porte de la cuisine. » « Alors il est dans l'atelier à faire encore perdre le temps aux ouvrières. Je vais aller le chercher. » Cela avait été prononcé d'un ton à effrayer une mère qui ne l'aurait pas connue. Mais Marichette, qui la connaissait précisément mieux que personne, ne montra pas le moindre émoi, sachant bien que Pierre n'avait à craindre que d'être embrassé. La vieille fille se leva vivement, mais ce n'était plus son grand pas de gendarme d'autrefois. Au contraire, elle marchait doucement, tâtant le carreau du pied et les murs de la main. Elle ne s'était point trompée, Pierre était occupé à jouer avec deux des plus jeunes ouvrières et avec Tite, qui faisait le mort au milieu de l'atelier, une croix en calicot blanc posée sur son ventre noir. « Eh bien, Drogue, demanda mademoiselle Julienne, qu'est-ce que tu fais encore dans l'atelier ?»« Je viens chercher un morceau d'étoffe pour essuyer ma plume. » « Alors prends-le et rentre avec moi travailler. » C'était en effet l'habitude que tous les soirs, Pierre, en revenant de l'école, se mit au travail dans le magasin entre sa mère et mademoiselle Julienne, et ce qu'il avait appris, il le leur devait à l'une et à l'autre, plus encore qu'au père Landriot, le précédent instituteur. Il obéit, mais en lançant aux ouvrières un regard désolé, qui disait combien il aurait mieux aimé rester à jouer avec elles, et suivant mademoiselle Julienne, il vint prendre place devant le comptoir auprès de sa mère, sous la lumière de la lampe. À cette heure de l'après-midi, et en cette saison d'hiver, il n'y avait pas à attendre des clientes, mais le magasin n'en restait pas moins ouvert et éclairé jusqu'à 8 heures du soir. « Qu'est-ce que tu as à faire ?» demanda mademoiselle Julienne. « J'ai à repasser la guerre de 100 ans. » Et bravement, il prit son histoire de France. Assurément, il aurait mieux aimé rester à jouer avec les ouvrières, mais puisqu'il fallait se mettre à ses leçons, il s'y mettait. Sa mère travaillait, sa marraine travaillait, les ouvrières travaillaient. C'était la règle de la maison, depuis qu'il était en âge de comprendre ce qui se passait autour de lui. Il l'observait aussi. Le silence du soir s'était fait dans le village, où l'on n'entendait plus qu'à de longs intervalles un bruit de sabots qui claquait vite, car par le vent de mer qui soufflait âpre et glacial, chacun avait hâte de rentrer chez soi. Dans le magasin, le poêle ronflait, et quand le grondement du vent se calmait un peu, les ciseaux de Marichette qui taillaient des pièces de lingerie grinçaient en glissant sur le comptoir. La tête entre ses deux mains, penchée sur son livre, Pierre lisait sa leçon. Et mademoiselle Julienne, qui ne voyait plus assez clair pour tailler, coudre ou lire, tricoter. Tout à coup, on entendit au loin, sur la terre solide et sonore, le roulement d'une voiture. Elle arrivait grand train. Brusquement, elle s'arrêta devant le magasin. « Qui peut venir par ce temps ?» demanda mademoiselle Julienne. Cependant, personne ne bougea. Si c'était une cliente, il serait temps de s'occuper d'elle quand elle serait entrée. C'était Célanie Belloc, non plus l'élégante et coquette Célanie qu'elle était 10 ans auparavant, mais une femme de 45 ans, vieillie, au visage amaigri, desséché et jauni, coiffée d'une capeline fripée, enveloppée dans un manteau râpé et démodé. « Quoi, c'est vous, ma cousine ?» s'écria Marichette. Puis, tout de suite, se reprenant pour corriger son exclamation, « Par un pareil temps ?»« J'ai trouvé une occasion et j'en ai profité. Nous nous voyons si peu. » Rien n'était plus vrai. Pendant 5 années, Célanie n'avait pas voulu voir Marichette, une fille perdue, et ça avait été seulement quand cette fille perdue était devenue l'associée de Mademoiselle Julienne qu'elle avait daigné lui faire une visite un jour en passant par Berneval pour voir comment elle était installée et juger par elle-même si elle était vraiment aussi bien dans ses affaires que le prétendait Sylvain. Depuis, elle n'était revenue que rarement et à de longs intervalles, sans jamais amener ses enfants, sans jamais inviter Marichette à venir à Criquefleur. Après l'échange de quelques paroles de politesse banale, il s'établit un silence que Mademoiselle Julienne, qui n'était cependant pas embarrassée pour échauffer la conversation, ne sut comment rompre. Ce fut Célanie qui se décida à la fin. « Est-ce que je pourrais te dire un mot ? » demanda-t-elle. « Mais certainement. » Et s'adressant à son fils, « Pierre, va donc un peu dans l'atelier. » Pierre ne se le fit pas dire deux fois, car il a détesté sa cousine de Criquefleur, qui le regardait toujours avec des yeux féroces et qui ne lui parlait que pour lui adresser des remarques désobligeantes. Il détala au plus vite. Mademoiselle Julienne s'était levée pour le suivre, mais Marichette la retint. « Restez donc, ma tante sait que je n'ai rien de caché pour vous. » Mademoiselle Julienne hésita un moment, puis, comme Célanie n'appuyait pas ses paroles, elle sortit. « Pourquoi voulais-tu m'obliger à parler devant cette vieille fée ? » demanda Célanie à mi-voix lorsque la porte fut refermée. « Vous savez bien que je n'ai pas de secret pour elle et que si ce que vous voulez me dire a une importance quelconque, je le lui répéterai ce soir. Cette vieille fée, comme vous l'appelez, a été et est une mère pour moi. Quand j'étais malheureuse, elle m'a accueillie. Elle m'a soutenue quand j'étais seule. Elle n'a pas eu honte de moi, et publiquement, elle m'a donné la main. Si j'ai pu gagner ma vie et celle de mon enfant, c'est à elle que je le dois. Quand je croyais que personne ne pouvait plus m'aimer, elle m'a aimée et soignée comme si j'avais été sa fille. Plus tard, d'ouvrière que j'étais, sans un sou de patrimoine, elle a fait de moi son associée. » Cela fut dit d'un trait, sans emportement, mais d'un tel élan de cœur qu'il eût été difficile de l'interrompre, alors même que Célanie l'eût voulu. À la vérité, il ne semblait pas que telle fût son intention. Après avoir laissé échapper un mouvement de surprise au commencement, elle avait paru réfléchir, comme si elle cherchait quelque chose, plutôt que si elle écoutait. « Puisqu'il en est ainsi, dit-elle en se levant, je n'ai qu'à repartir. Puisque c'est pour cette personne seule que tu as de la reconnaissance, il est inutile de parler de ce qui m'a menée. Tu me fermes la bouche. C'est égal, je n'aurais jamais supposé cela de toi. Je ne vous comprends pas. Tu as, au contraire, très bien deviné ce que je voulais te demander et tu as pris les devants pour me fermer la bouche. Enfin, grand bien te fasse si tu crois ne devoir de la reconnaissance qu'à cette personne. Moi, je m'imaginais que tu devais en avoir aussi pour ceux qui, avant cette personne, ont pu te rendre service, t'aimer, te soigner, te protéger, et cela sans aucun avantage pour eux. Bien au contraire, puisque pour t'avoir recueilli et protégé, ils se sont exposés à une guerre féroce qui les ruine. Car enfin, si nous sommes mal dans nos affaires aujourd'hui, c'est à cause de ce procès que nous avons engagé dans ton intérêt et qui nous a valu la terrible concurrence que nous a faite M. Belloc. Je vois avec chagrin que cela n'a pas laissé de souvenir dans ton cœur. » Marichette ne répliqua pas un mot, bien qu'il eût été facile de répondre, en montrant qu'elle savait maintenant dans l'intérêt de qui ce procès avait été engagé. « Adieu, dit Célanie. Vous avez tort de ne pas me dire ce qui vous a mené. J'aurais été heureuse de vous prouver que je ne suis pas ce que vous croyez. Cela ne t'aurait pas coûté bien cher. Peu importe. Et tu aurais pu prouver à ton oncle et à moi que tu avais des sentiments de reconnaissance dans le cœur. Cela lui aurait été doux à ce pauvre homme si durement éprouvé. Enfin, voici ce que c'est. Par suite de la concurrence que nous a faite M. Belloc, qui nous a enlevé successivement tous nos clients, nous nous trouvons très gênés, si gênés que nous ne pouvons pas faire face à notre échéance de demain, et tu sais ce que c'est qu'une échéance manquée, c'est la faillite. Alors je venais te demander de me signer une valeur de 1 000 francs qui tirerait ton oncle d'embarras. Tu ne courais pas de risque, je paierai le billet dans 3 mois. Je suis sûre d'avoir les fonds à ce moment. Tu me ferais le billet valeur en marchandises, je trouverai la l'escompté. » Marichette hésita un moment. « Je ne vous ferai point de billet, » dit-elle. « Tu vois quelle fille tu es. Car je suis l'associée de Mademoiselle Julienne et je ne veux pas l'engager. Mais je peux vous donner 1 000 francs et je vais aller vous les chercher. » Comme j'avais raison de dire à ton cousin que tu ne me refuserais pas, s'écria Sélanie en voulant se jeter dans les bras de Marichette. Mais déjà, celle-ci était occupée à allumer un bougeoir pour monter à sa chambre.